En 1884, une grande conférence internationale a été organisée à Berlin par le chancelier de l'Allemagne, Otto von Bismarck, pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Je vous lis les États qui étaient représentés et essayez de voir si vous pouvez trouver qui n'était pas à la table lors de la conférence. On retrouvait l'Allemagne, bien sûr, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, le Danemark, les États-Unis, la Russie, le Royaume de Suède et Norvège, les deux pays étaient unis à ce moment-là, et l'Empire ottoman, et c'est tout. Non, vous n'avez pas rêvé. Aucun Africain n'a pris part aux discussions sur l'avenir du continent africain. Les dessins qu'on a représentant la conférence nous montrent un groupe d'hommes blancs assis autour d'une table. Il y en a quelques autres debout devant une immense carte de l'Afrique. C'était une conférence pour établir les règles du partage du continent entre les nations colonisatrices et on n'avait pas l'intention de demander aux Africains et aux Africaines ce qu'ils en pensaient. Les Européens connaissent l'Afrique depuis toujours. Déjà à l'époque de l'Empire romain, à sa plus grande expansion, l'Empire va contrôler toute la rive africaine de la Méditerranée. Quand l'Europe se lance dans la « découverte », je le mets en guillemets, et la conquête de toutes ces terres qu'il ne connaissait pas à partir de la fin du 15e siècle, on va évidemment s'intéresser à ce continent qu'on savait riche en ressources. Mais on va rester dans les régions périphériques. On installe des comptoirs près des côtes océaniques et en règle générale, on ne va pas chercher nous-mêmes les épices, l'or, l'ivoire, les esclaves et les autres marchandises qu'on voulait transiger. On avait des intermédiaires africains qui nous obtenaient tout ça. On leur achetait les marchandises pour ensuite les revendre. Encore au début du 19e siècle, les cartes qu'on a de l'Afrique sont assez vagues. Le pourtour du continent est bien représenté, mais au centre, on a une grosse portion de terra incognita, comme on disait à ce moment-là, terre inconnue. Et une des principales raisons pour lesquelles les Européens hésitaient à s'aventurer vers l'intérieur du continent, c'est que très souvent, ils n'en revenaient pas. Les maladies qui se transmettaient dans les régions tropicales de l'Afrique, la malaria notamment, faisaient des ravages chez les explorateurs et les soldats venus d'Europe. Et c'est ironique, on sait que les maladies transportées par les Européens ont beaucoup facilité leur conquête de l'Amérique en décimant les populations autochtones. Eh bien là, l'arme bactériologique s'est retournée contre eux. Ces moustiques qui transportaient notamment la malaria ont participé à la défense de l'Afrique contre l'invasion européenne. Mais le 19e siècle est marqué par une série de découvertes médicales. On va notamment isoler la quinine qui permet de guérir la malaria. Et ces avancées médicales vont s'ajouter à des avancées techniques. Le bateau à vapeur, par exemple, on n'a pas eu besoin de remonter les fleuves et rivières d'Afrique à la rame. On va être en mesure de construire des voies de chemin de fer qui permettent de transporter du matériel et des hommes beaucoup plus rapidement que par le passé. On dispose aussi d'armes infiniment plus perfectionnées que les populations africaines. Et encore une fois, je fais un parallèle avec la colonisation de l'Amérique. Quand les premiers Européens sont arrivés, oui, ils avaient des armes à feu, mais on tirait avec des mousquets à ce moment-là. C'était extrêmement long à recharger. À partir des années 1860, on développe des mitrailleuses qui vont permettre de faucher des rangées de guerriers africains en le temps de le dire. Donc, fort de ces innovations, dans le dernier quart du 19e siècle, l'Europe se sent d'attaque pour finalement prendre possession de ce continent qui le narguait depuis si longtemps. On calcule qu'en 1870, environ 10% du territoire africain était sous contrôle de pays européens. En 1914, quand la Grande Guerre commence, 7 puissances coloniales d'Europe contrôlaient 90% du continent. Il restait l'Éthiopie et le Libéria qui étaient indépendants, plus quelques royaumes à droite et à gauche, mais on avait complété le travail de conquête et d'occupation du territoire africain. On voulait des colonies pourquoi? Pour en extraire les ressources au bénéfice de la métropole, du pays colonisateur donc, bien entendu, mais on voyait aussi un beau bassin de consommateurs potentiels sur ce continent. Si on implantait notre système économique capitaliste dans ces pays pleins de gens primitifs, et par primitifs, je veux dire, qui ne possédaient pas ces beaux produits qu'on fabriquait en Europe, ça nous faisait un débouché. Et comme c'est une colonie, on contrôle le pays, la population ne peut pas magasiner. S'il y a une compagnie d'un autre pays qui vend le produit X moins cher, c'est tant pis, Vous achetez les produits de nos compagnies au prix où elles veulent bien vous les vendre, ça n'a que des avantages. Mais on veut aussi des colonies pour le prestige, ça va de soi. Aucun monarque souhaite avoir le plus petit royaume possible. On veut des empires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. C'est un grand concours de mon empire colonial est plus gros que le tien, on va se le dire. Mais les puissances européennes vont réfléchir à ce qui s'était passé auparavant et se disent, est-ce qu'on pourrait trouver une manière de se partager l'Afrique et que tous les pays qui veulent des colonies et sont assez puissants pour se le permettre puissent en profiter sans qu'on s'entretue? C'est une des motivations de notre conférence de Berlin qui va s'étirer sur plus de 3 mois. On va s'entendre sur un certain nombre de principes, tout particulièrement sur le fait qu'un pays qui contrôle une région côtière peut agrandir sa sphère d'influence vers l'intérieur du continent jusqu'au moment où on atteint la sphère d'influence d'un autre pays, mais on ne peut pas simplement dire « le bassin de telle rivière ou le plateau de telle chose est à moi ». On doit occuper les terres qu'on réclame, que ce soit administrativement, militairement, on doit en faire l'exploitation ou avoir des ententes avec des chefs locaux. Les autres puissances n'étaient pas supposées occuper une région appartenant à un différent pays si les critères d'occupation effective, comme on disait à ce moment-là, étaient remplis. Il y aura un grand nombre d'autres ententes bipartites, tripartites entre les puissances. On est prêt à reconnaître votre souveraineté sur la région X si vous reconnaissez la nôtre sur la région Y. Il y a eu beaucoup de marchandages. Et évidemment, tout ça se passait au-dessus de la tête des populations locales. Elles n'étaient jamais consultées sur quoi que ce soit. Les ententes avec les chefs locaux dont je vous parlais il y a un instant, on leur faisait signer des traités dans la langue du colonisateur. Les chefs n'avaient en général aucune idée de ce qu'ils signaient. Souvent, on les soudoyait. Et on ne leur exposait pas nécessairement chacune des clauses et alinéas du traité. Les autorités coloniales pouvaient bien prétendre que les populations locales rejoignaient l'Empire de leur plein gré. Ça prenait beaucoup d'imagination pour voir ça comme ça. Et les colonisateurs ne se sont pas donné la peine d'apprendre à connaître ce territoire extrêmement complexe qu'ils étaient en train de conquérir. Français et anglais s'entendaient, bon, tout ce qui est à l'est de telle rivière, c'est à vous. Nous, on a l'ouest de la rivière. Mais il pouvait y avoir un groupe ethnique avec une communauté de langue et de tradition qui vivait de part et d'autre du cours d'eau, qui soudainement se trouvait à appartenir à 2 différents empires et répondre à 2 différentes administrations. Et le peuple de l'ouest de la rivière pouvait se retrouver au sein d'une même administration régionale avec leurs ennemis séculaires plutôt qu'avec le reste de leur groupe qui était maintenant sujet britannique. J'ai choisi la France et la Grande-Bretagne, c'était les 2 superpuissances en Afrique pendant la période. La France contrôlait une plus grande portion du territoire que ses rivaux. Le gros des possessions françaises se trouvait dans le nord et l'ouest, et on contrôlait beaucoup de déserts en Algérie, au Tchad, au Niger, au Mali actuel. Les Britanniques occupaient moins de territoire, mais leurs colonies étaient nettement plus peuplées que celles des autres. Ils ont colonisé l'Égypte, le Soudan, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, pour ne nommer que ceux-là. Les Allemands étaient installés au Cameroun et en Tanzanie, les Portugais en Angola et au Mozambique. Les Italiens ont occupé une partie de la Corne de l'Afrique et, tardivement, de la Libye. La présence espagnole sur le continent était minime, hors de ce qui est aujourd'hui le Sahara occidental. L'Afrique a été colonisée à une vitesse remarquable. Comme je vous le disais, on est passé de 10 à 90% de contrôle du territoire en moins d'un demi-siècle. Mais la décolonisation s'est elle aussi faite extraordinairement rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'héritage de ce système de partage du continent, qui a été en partie décidé à la conférence de Berlin, est extrêmement lourd à porter. Les ressources qui ont été extraites du territoire africain pour permettre l'enrichissement d'étrangers, elles sont perdues. Même chose pour tout ce capital humain. On ne peut pas estimer le nombre de morts causées par la colonisation. Mais surtout, quand on regarde une carte du continent africain, c'est une carte complètement artificielle. Les pays qu'on voit là, sauf de rares exceptions, ont été conçus par les colonisateurs et sont un assemblage disparate de groupes ethniques qui n'ont aucun lien entre eux. Mais en tant que tels, les objectifs de la conférence de Berlin ont été atteints. On s'est entendu sur qui pouvait aspirer à avoir une part du gâteau. Et pendant les 30 ans qui se sont écoulés entre la conférence et le début de la guerre de 1914, il y a eu des tensions, des incidents, mais globalement, on a réussi à partitionner l'Afrique sans qu'il y ait de grands affrontements entre colonisateurs. Les rivalités coloniales en Afrique étaient des manifestations des tensions entre puissances européennes, alors que tout le monde signait des pactes, des ententes et des alliances avec tout le monde, mais elles sont rarement citées comme une cause directe de la Grande Guerre de 1914-1918. Et la conférence a mené à la création d'un État qui s'appelait l'État libre du Congo, ancêtre de la République démocratique du Congo, la RDC. Ce pays est devenu par la suite une colonie belge, mais c'était au départ la propriété personnelle du roi belge Léopold II. Et il y a beaucoup trop de choses à dire sur cet État franchement singulier. Je vais consacrer un épisode à l'État libre du Congo, dépendant à quel moment vous écoutez ceci. L'épisode est soit déjà en ligne, ou il le sera très bientôt.